n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit. N'ayez pas peur, ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune, onde femme sur 93.8 MHz.
Des milliers de chats se feront écraser sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira : elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront.
On y arrive. Radio Pleine Lune sur 93.8 MHz, onde femme, Radio Zone. Eh bien, notre programme de ce mercredi soir, c'est l'automne. Vous l'avez vu, pas tellement aujourd'hui, mais hier, c'était terrible. Cette tempête, la pluie. Eh bien, restez sur. Branchez-vous sur 93.8 MHz. Écoutez-nous. Aujourd'hui, à 18h30, les informels, les nouvelles des informels, suivies à 19h par le quart d'heure lesbien, canicule, puis le memento de Marjolaine. À 20h, une interview, discussion avec Simone Veil, Vivre l'histoire. Elle racontera son enfance, sa jeunesse, les années de guerre. Puis, il y aura un programme musical jusqu'à 23h. Et après, vous pourrez nous réécouter en différé. Et ceci jusqu'à demain à 17h. Radio Pleine Lune, onde femme 93.8 MHz. Tout de suite, nos nouvelles. États-Unis, les assurances, une nouvelle race de prédateurs sévit, la chasse aux malades du sida. Cette pratique sordide trouve de nombreux défenseurs dans le pays, à commencer par les malades qui obtiennent rapidement de fortes sommes d'argent. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à toucher le pactole. Une nouvelle race de spéculateurs sévit en Amérique. Leur démarche est à la fois simple et sordide. Trouver des malades du sida pour leur racheter leur assurance vie. Cette pratique, qui n'est pas encore réglementée sur l'ensemble du territoire, trouve de nombreux défenseurs. En premier lieu, les malades eux-mêmes qui peuvent ainsi obtenir une forte somme d'argent cash, un financement parfois inespéré pour des traitements particulièrement onéreux. Un malade possédant une assurance vie de 100 000 $ peut ainsi toucher entre 50 000 et 90 000 $ selon son état. Les firmes telles National Insurance Marketing en Floride, Life Partners au Texas, travaillent ensemble à la publication de plaquettes dans lesquelles elles promettent à leurs clients, je cite, « un gros paquet d'argent » très rapidement avec le rachat de ces polices d'assurance. Selon Glenn Pomeroy, la brochure fournie par National Insurance Marketing donne des détails sur un homme de 41 ans, diagnostiqué comme zéro positif en octobre 91. La compagnie précise que le malade, je cite, « a déjà des problèmes visuels, des frissons, des sueurs, des fièvres chroniques, mais n'a pas encore développé de maladies liées au virus du sida ». National Insurance Marketing ajoute que son médecin lui donne une espérance de vie de 6 à 12 mois à partir de mai 1992, mais que la firme d'investissement évalue cette espérance de vie entre 9 et 15 mois. Le dossier souligne enfin, au chapitre des risques de l'investissement, la possibilité que le malade vive plus longtemps, mais fixe à 100% la probabilité que la maladie soit mortelle. Ce type d'activité a débuté en 88. Les estimations font état d'environ 100 millions de dollars de polices d'assurance vie déjà rachetées aux malades par 25 compagnies américaines. Toujours sur le front du sida, en France, une fillette de 5 ans, zéro positive, privée de colo. Que retiendra Léa, 5 ans et demi, de cette invraisemblable odyssée que le monde des adultes vient de lui infliger? Non seulement elle a été exclue d'une colonie de vacances pour cause de séropositivité, mais elle a subi également une ordonnance de placement provisoire de 10 jours, toujours pour les mêmes raisons. Pourtant, tout était au départ parfaitement en règle. Sa mère avait inscrit son enfant au mois de juillet dernier dans une colonie de vacances qui devait se dérouler dans les Hautes-Pyrénées. Par courrier, on lui demandait juste de remettre, lors du départ de la colonie, une fiche sanitaire. Fiche qu'elle a fait remplir par son pédiatre qui, à sa demande, notait que Léa était séropositive et qu'elle devait juste prendre des gouttes d'antiviral rétrovir. Rien d'autre. Le jour du départ, la jeune mère a conduit sa fille et, discutant sur les lieux avec la directrice, elle a précisé le traitement. La directrice, au dire de la mère, n'a fait alors aucun commentaire. Un peu plus tard dans la journée, alors que la mère de Léa était revenue à Toulouse, la directrice lui a téléphoné et demandé un certificat de non-contagion ainsi que l'ordonnance médicale prescrivant la posologie de rétrovir. Demande farfelue, car l'infection au virus n'est en rien une maladie contagieuse, étant juste transmissible. Quant à l'ordonnance, la jeune mère s'est proposée d'en amener une sur le champ. Fin du malentendu, nullement. Un peu plus tard, c'est le président de l'association qui retéléphone, explique en substance à la mère que si les autres parents apprenaient la séropositivité de l'enfant, ils risquaient de retirer leur propre enfant. La jeune femme, atterrée, répond que sa petite fille s'est préparée à la colonie, qu'elle serait assurément très triste de s'en sentir exclue. Le président en convient et dit qu'il va rappeler pour lui faire part de leur décision. En pleine nuit, la directrice ramène la petite. Faute de réponse à l'interphone, la directrice conduit l'enfant à la brigade des mineurs qui la confie au foyer de l'enfance. Et comme pris dans une avalanche, le juge pour enfants décide sur le champ une ordonnance de placement provisoire. L'odyssée ne s'arrête pas là. Prévenue enfin par la police, 24 heures plus tard, la mère se démène. Elle contacte aussitôt le substitut du procureur de la République qui renvoie au juge et ce dernier ne veut pas en démordre. Il a pris une décision de placement, il y tient. C'est ainsi que, partie en colonie, la petite Léa s'est retrouvée 10 jours en placement provisoire. Une plainte vient d'être déposée et pour ce faire, l'avocate de la mère s'est appuyée sur la loi de janvier 89 qui punit toute discrimination, je cite, « en raison de l'état de santé ». Du côté de la contraception, les conséquences de la vasectomie. De recherches sérieuses ont été entreprises par l'Université d'Oxford, donc en Angleterre, sur les effets de la vasectomie. Les chercheurs ont étudié un collectif de plus de 13 000 hommes qui avaient subi une vasectomie et ont comparé le devenir de ceux-ci sur le plan de la santé à un collectif de 22 000 hommes n'ayant pas subi cette opération. La période d'observation s'est étendue sur près de 7 ans. Après avoir éliminé les différents biais possibles, les chercheurs ont pu comparer les différentes maladies et les différentes causes de mortalité entre ces deux populations. L'incident, c'est-à-dire la survenue des cancers de la prostate, n'est pas différente entre le collectif des hommes ayant subi l'opération et ceux qui n'ont pas choisi une telle intervention. Ils n'ont pas non plus pu mettre en évidence une augmentation significative des maladies auto-immunes, c'est-à-dire d'une agression du corps par lui-même via le système immunitaire. Les hommes qui avaient subi l'intervention n'avaient pas d'augmentation significative du risque cardiovasculaire. Les grands facteurs de risque classiques pour ces dernières maladies restent bien sûr le tabac, l'hypertension artérielle, la sédentarité, l'obésité et les troubles du cholestérol. En d'autres termes, l'homme meurt plus tôt en raison de son style de vie défavorable ou de facteurs de risque qu'il choisit de prendre, consommation de tabac notamment, et non en raison d'un choix de contraception du type vasectomie. Cette méthode est très favorable dans les couples stables puisqu'elle permet d'éviter à la femme de prendre régulièrement des pilules contraceptives, voire de subir une intervention chirurgicale plus compliquée que celle de l'homme, ligature des trompes. Dans le même temps, une autre équipe de chercheurs de la célèbre Université de Harvard aux États-Unis a procédé à une même recherche. Les résultats viennent complètement confirmer ceux de l'étude anglaise. Dans un monde où de plus en plus de femmes fument, il devient évidemment progressivement plus difficile de recommander la contraception sous forme de pilule chez les femmes fumeuses au long cours. On sait en effet que la pilule et le tabac font mauvais ménage, accroissement du risque cardiovasculaire. On sait également que les grandes entreprises de tabac font un effort considérable pour accroître leur part de marché dans le tiers-monde. En effet, dans les pays occidentaux, à l'exemple des États-Unis, de plus en plus de gouvernements édictent des règles restrictives par rapport à la consommation du tabac. Les deux recherches ci-dessus décrites sont donc d'une importance capitale car elles permettent désormais de conseiller sans réserve la vasectomie comme moyen notamment de contraception dans les couples où la femme est fumeuse. Il faut bien sûr préciser que la ligature des trompes chez la femme reste également un moyen de contraception sûr. L'intervention chirurgicale est d'ailleurs rarement accompagnée de complications. Dans l'étude américaine, les hommes qui ont choisi la vasectomie étaient en général des hommes en meilleur état de santé que la moyenne de la population. Les entreprises et les nouvelles secrétaires, révolution technologique et hausse des qualifications de ces dernières. Secrètement amoureuse de son patron, le look démodé, dévorant la presse du cœur, papotant des heures entières avec ses copines du pool de dactylo, le terme de secrétaire évoquait encore récemment ce cliché désuet et caricatural. La population en est pourtant variée, évaluée à 900 000 personnes environ, donc ça en France, et recouvre des fonctions très diverses, depuis la standardiste de l'accueil qui répond au téléphone, à l'assistante du président qui supervise toute la gestion de l'entreprise. Anne Broyard, co-auteure du livre « Secrétaire de A à Z », a fait une recherche sur les nouvelles secrétaires et nous dit « Il y a encore des secrétaires embauchées pour taper des documents, mais elles ne travaillent plus sur des machines à écrire. Elles ont des machines de traitement de texte. Elles ont tendance à aller vers la PAO, publication assistée par ordinateur, et à devenir de véritables techniciennes, rebaptisées d'ailleurs opératrices de saisie. » On a cru pendant tout un temps que chaque cadre, grâce au traitement de texte, assumerait seul ses notes et son courrier et que les répondeurs téléphoniques permettraient de faire l'économie des secrétaires. Il est vrai que dans beaucoup d'entreprises soucieuses de réduire les coûts, le personnel administratif a notablement diminué. Il n'en reste pas moins que pour gérer les agendas, aiguiller les interlocuteurs, les secrétaires ont encore de beaux jours devant elles. En France, le minimum requis au niveau de la formation pour les secrétaires est le niveau bac. L'anglais courant est presque toujours exigé, quelle que soit la taille ou le secteur d'activité de l'entreprise. Il faut en plus une excellente présentation pour l'image de la maison, un esprit rapide, alerte, une faculté d'adaptation. On a envie de dire, comme le Figaro de Beaumarchais, au nombre de qualités demandées aux secrétaires, combien de patrons seraient dignes de l'être. Il y a eu toujours dans le métier des secrétaires une frange haut de gamme, les secrétaires de direction, souvent formées sur le tas. Elles travaillaient directement avec un membre éminent de la direction, filtraient les appels, éloignaient les importants, triaient son courrier, géraient son agenda, préparaient son café, lui rappelaient un déjeuner, un rendez-vous, organisaient ses voyages, lui recommandaient même parfois de ne pas oublier l'anniversaire de son épouse. À la fois Cerbère et gardienne du foyer, elle vivait dans l'ombre du patron, attentive à lui faciliter l'existence et à le décharger de tout souci pratique. Là aussi, le changement est spectaculaire. En effet, la complexité croissante des entreprises sur un plan à la fois technique et humain nécessite à tous les postes, y compris celui-ci, un personnel de plus en plus expert. Si les recherches par petite annonce couvrent encore les besoins en secrétaire ordinaire, entre guillemets, les assistantes de direction, car c'est le terme désormais utilisé, se recrutent par l'intermédiaire de cabinets de chasseurs de tête, tout comme les cadres. Mais ce sont des cadres pour plus de la moitié d'entre elles, s'exclame Madame Thierry, directrice de Femmes et Carrières, un cabinet spécialisé dans la recherche d'assistantes haut de gamme. Et de dire, elles ont presque autant d'années d'études que leur patron. Les CV, donc curriculum vitae, sont édifiants. On trouve des Sciences Po, des licences, des maîtrises de lettres et de langues. Beaucoup d'enseignantes qui souhaitent changer de métier. Il faut aussi pouvoir, pour être donc une de ces top secrétaires, il faut aussi pouvoir travailler 10 heures par jour, être à la fois chaleureuse, réservée, avoir des notions juridiques, économiques, financières pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit et surtout des qualités d'organisation. Pour cette catégorie, les rémunérations en France oscillent entre 200 000 et 300 000 francs par an. En Irak, une nouvelle loi permet aux hommes de tuer leurs femmes et parentes en cas d'adultère. Les hommes irakiens peuvent maintenant tuer leur mère, femme ou fille, qui ont commis l'adultère sans craindre d'être poursuivis légalement, selon un décret du Haut Conseil révolutionnaire. Ce même décret dit que les hommes ne seront pas traduits devant la justice s'ils tuent les amants de leurs femmes parentes si l'adultère a eu lieu dans la maison familiale. Selon le Haut Conseil révolutionnaire, ce nouveau décret protège la société contre le vice, assure le développement de la vertu et de la morale. En Angleterre, pas de jeune homme au pair. Pas de jeune homme au pair au pays des suffragettes. Les services d'immigration britanniques ont décidé d'expulser un jeune Suédois de 19 ans, engagé par un couple pour s'occuper de leurs quatre enfants de 4 à 11 ans. Pour la loi, la personne au pair ne peut en aucun cas appartenir au genre masculin. Elle est obligatoirement, je cite, une jeune femme de 17 à 27 ans inclus, célibataire et sans personne à charge. Johan devra donc regagner son pays devant les supplications des époux, terriblement déçus de ne pouvoir garder ce jeune homme au profil idéal. Le ministre de l'Intérieur a toutefois accepté de faire une petite dérogation. Le Suédois pourra rester un mois en Angleterre, mais comme simple visiteur. Du côté de l'emploi, morosité sur le marché du travail, comme nous le savons, coup de frein sur les salaires des cadres suisses. Les cadres ont enregistré une perte de leur pouvoir d'achat en 1992. Les cadres helvétiques souffrent eux aussi de la mauvaise conjoncture. Ils ont enregistré une perte de pouvoir d'achat en 1992. Le salaire annuel brut moyen des quelques cadres suisses a baissé donc de près de 3% en 1992. L'étude qui vient de paraître sur ces cadres met également en évidence les disparités de salaire entre les hommes et les femmes cadres. En moyenne, les femmes cadres gagnent 30 000 francs de moins que les hommes. Cette différence s'explique principalement par le fait que les femmes sont bien moins nombreuses que les hommes aux postes les plus élevés et que les directrices ou femmes cadres supérieures se trouvent souvent dans des entreprises de moins de 100 employés. Il n'en demeure pas moins qu'à fonction égale, une femme gagne jusqu'à 38% de moins qu'un homme. Plus elle occupe un rang élevé dans l'entreprise, plus l'écart de son salaire avec ses homologues masculins se creuse. Un directeur général touche 216 000 francs en moyenne par année, alors que son équivalent féminin engrange 134 000 francs, soit moins que le salaire d'un homme de l'échelon inférieur. À Genève, les femmes disent halte au porno devant la Commission des droits de l'homme. À Genève, lors de la dernière session de la Commission des droits de l'homme, le mouvement mondial des mères a tenu à protester fermement contre l'usage qui est fait du corps humain, en particulier celui de la femme, dans les productions pornographiques. Les écrits obscènes ont existé de tout temps, mais le développement des techniques modernes a suscité une véritable industrie pornographique qui a explosé depuis 1974, une industrie dont les profits scandaleux se chiffrent par millions de dollars, ont rappelé les femmes membres du mouvement. Je cite, « C'est la femme qui est traitée de la manière la plus ignoble. On la représente comme une chienne qui provoque les hommes, propose des perversions sexuelles, prend plaisir à être battue, etc. Aussi demande-t-elle que la pornographie soit considérée comme une forme de racisme, une atteinte à la dignité et aux droits humains. » En Suisse également, les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'insurger contre la diffusion massive de la pornographie, notamment par le biais des vidéocassettes, du Minitel, des petites annonces. Le dernier numéro de Questions au féminin, la revue fédérale de la Commission pour les questions féminines, est consacré à ce thème. Comme le mouvement mondial des mères, la revue rappelle que la pornographie banalise et légitime la violence et l'exploitation sexuelle des femmes. Elle véhicule une image de la sexualité féminine fondée sur des fantasmes masculins, à savoir que les femmes aiment être violées, attachées, humiliées, avilies. Très virulente aux États-Unis, la critique contre les nouveaux moyens de communication voués au sexe ne fait encore que balbutier en Europe. Conférence qui a eu lieu à Genève, le développement passe par l'émancipation des femmes. Une sociologue explique que les femmes ont beaucoup fait pour la modernisation des pays d'Amérique du Sud, les gouvernements semblent l'ignorer. Je cite, dans l'histoire récente des pays d'Amérique latine, les mouvements féministes sont ceux qui ont proposé le plus d'innovations importantes. Pourtant, aujourd'hui, les femmes ne bénéficient pas des progrès accomplis et se trouvent éloignées des centres de décision politique et économique. Partant de ce constat, Madame Nia Filgueria, uruguayenne et sociologue, propose des idées et des projets originaux concernant le développement des pays latino-américains. Depuis des années, elle effectue des recherches sur le terrain avec des groupes d'ouvrières, de paysannes, de femmes pauvres de son pays. En 79, alors que son pays était encore sous le joug de la dictature, elle a fondé le groupe d'études sur la condition de la femme qui a agi depuis comme consultante auprès de plusieurs organisations internationales. Dans le domaine des droits civils et politiques, le sort des femmes d'Amérique latine ressemble à celui des européennes. Dans la loi, elles ont les mêmes droits que les hommes et dans la pratique, elles sont quasiment absentes des hautes sphères de la politique. La sociologue Filgueria explique qu'en Europe, les femmes ont une meilleure situation simplement parce que l'Europe est plus riche. Pour ce qui est de la vie professionnelle, le sort des latino-américaines est également guère enviable. Dans les zones rurales, le travail des femmes n'est en général pas rémunéré. Elles sont cantonnées dans leur rôle traditionnel de gardienne du foyer. Et bien qu'elles exercent souvent une activité dans l'agriculture, elle n'est pas considérée comme un emploi. En revanche, dans les centres urbains, elles sont nombreuses à occuper un poste rémunéré. En Uruguay, par exemple, où seulement 12% de la population vit à la campagne, 70% des femmes travaillent. Cependant, même pour celles qui ont un emploi, les conditions sont dures, ce qui ne semble pas trop préoccuper les gouvernements. Non par volonté politique délibérément machiste, mais indirectement de par la répartition des dépenses publiques. Parce qu'une partie plus importante du budget est consacrée au secteur militaire, l'État néglige des domaines comme l'éducation, la santé ou la prise en charge des personnes âgées qui représentent autant de charges que la société fait endosser aux femmes. La thèse de Madame Filgueria implique que le développement des pays d'Amérique latine doit s'accompagner d'une amélioration du sort de la femme. Les organisations internationales en ont pris conscience. Depuis que nous leur avons montré l'importance que revêt le travail des femmes dans l'économie nationale, les organisations internationales le considèrent à présent comme un facteur de développement, tout comme la politique de contrôle des naissances. À ce propos, cependant, la sociologue émet quelques griefs à l'encontre des organismes internationaux. Selon ces informations, sous couvert d'appui à la contraception et avec la bienveillance du gouvernement brésilien, 1 à 2 millions de femmes du Nord-Est, donc au Brésil, ont été stérilisées, parfois à leur insu, grâce aux moyens fournis par quelques organisations internationales. À Genève, un kiosque à Champel brise le lourd silence de l'inceste. Depuis le mois de février, il existe à Genève un lieu d'accueil et d'écoute pour les personnes victimes d'inceste. Informations, conseils, surtout écoute, y sont prodigués par 5 personnes qui assurent la permanence. Enfin, nous sommes visibles. Cependant, nous recherchons encore d'autres écoutants, si possible des personnes qui ont elles-mêmes surmonté le traumatisme, lance Geneviève Piret, une des fondatrices de ce kiosque. Depuis 6 mois, dans un espace restreint mais très convivial, le kiosque tend l'oreille. 6 personnes, 5 hommes, 1 femme, y ont confié leur histoire. Nous voulons être un catalyseur d'entraide, affirme toujours Geneviève Piret. Beaucoup sont venus pour prendre des renseignements, consulter nos livres ou simplement nous encourager. Plus nous parlons et faisons parler de nous, plus les gens oseront partager leur fardeau et, s'ils le désirent, se battre. En accord avec SOS Enfants et Viol Secours, Terre des Femmes dénonce les carences de la nouvelle loi sur l'intégrité sexuelle votée en mai dernier. Si les féministes y ont trouvé leur compte, les enfants sont encore moins bien protégés qu'avant. Ainsi, le crime d'inceste n'est toujours pas considéré comme imprescriptible. Le délai de prescription qui s'élève à 2 ou 3 ans est illogique. Comment voulez-vous qu'un enfant violé à 4 ou 5 ans puisse à l'âge de 7 ans dénoncer le parent abusif? Pour plus d'efficacité également, nous souhaitons que l'enfant puisse être représenté par un avocat et non pas exclusivement par un des membres de sa famille. Aider et accueillir des enfants victimes, tels sont les objectifs futurs de l'association. Et notre nouvelle rubrique de notre journal, des informels, le bon mot de la semaine. Je vous fais cette citation. Les femmes n'ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de vie qui sont introduites au monde, d'autant que ce sont les hommes qui les ont faites, sans elles. Qui a dit cela? Devinons, 3 petits points. Eh bien, ça a été dit il y a de cela plus de 400 ans. Par qui? Par Montaigne. C'était les informels, les nouvelles des informels, Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. Restez à l'écoute dans un tout petit moment canicule, le quart d'heure, l'espien, sur Ondes Femmes, 93.8 MHz.
Basket so many times before. They've been scrambled, boiled, and fried, even dropped upon the floor. I found out in the long run